Bonjour Bernadette, bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour Jérôme, bonjour chers auditeurs de Radio Maria, c'est toujours une joie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, comme vient de vous le dire Jérôme, je vous emmène au Pérou pour rendre hommage à sœur Agustina Luzmila Rivas Lopez, plus connue sous le diminutif affectueux de Aguchita, martyre de la miséricorde. Alors Aguchita ou Agustina, en réalité, porte le prénom à la naissance de Antonia Luzmila. Elle est née le 13 juin 1920 au Pérou, sur les hauts plateaux des Andes, dans la ville de Coracora, dans la province d'Ayacucho, dont le nom signifie en quechua un lieu où poussent toutes sortes de plantes herbacées. Alors si je vous dis ça, c'est pas pour faire savant, mais c'est parce que c'est là, dans cet environnement, que la petite Antonia va passer son enfance. Et là aussi que va naître son amour pour la nature, dans laquelle elle voit la présence amoureuse de Dieu pour sa création. Antonia est baptisée 11 jours après sa naissance. C'est la fille aînée de Damaso et Modesta, d'humbles paysans qui vivent des cultures de leurs lopins de terre et du fromage de leurs brebis. Ce sont des parents pleins de tendresse pour leurs 11 enfants. Ce sont aussi de vrais chrétiens qui veillent à éveiller tout ce petit monde, à la fois catholique, dans l'humilité, le respect, le service et l'amour des pauvres. En tant qu'aînée, Antonia aide bien sûr à la maison et elle le fait avec joie parce qu'elle aime ses parents, elle aime sa famille. Mais ce qui la rend encore plus heureuse, c'est lorsque ses parents lui demandent d'aller conduire les brebis, de s'occuper des bêtes. Je vous l'ai déjà dit, elle aime le soleil, elle aime la nature, les plantes. Et tout au long de sa vie, d'ailleurs, elle cessera de se considérer comme une fille de la campagne. Elle gardera son cœur de bergère. Un peu plus grande, vers 13 ou 14 ans, elle quitte sa région natale pour entrer à l'Institut Sevilla à Lima, sur la côte, donc, une école dirigée par la congrégation Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur, une congrégation qui héberge et forme des jeunes filles pauvres et en difficulté sociale. Très tôt, la mission des sœurs l'attire et elle ressent en elle l'appel de ce Jésus Bon Pasteur. Alors, bien sûr, elle va discerner pour savoir si c'est vraiment sa vocation. Puis elle entre comme postulante dans la congrégation avant d'y recevoir son habit de novice et son nouveau nom, Agustina, qui très vite devient pour les sœurs ce diminutif affectueux d'Aguchita. Aguchita, la petite Agustina, patiente, accueillante, attentive, joyeuse, humble et toujours disponible. À 24 ans, le 8 février 44, elle prononce dans la joie ses premiers vœux. Quelques mois après, elle perd son papa. 5 ans plus tard, ce même 8 février, elle prononce ses vœux perpétuels dans cette congrégation, donc Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur. En ayant dans le cœur un désir profond, mais qu'elle garde secret, celui d'être envoyée comme missionnaire dans la forêt centrale du Pérou, une zone où il y a d'énormes besoins pour prendre soin des plus pauvres. Mais ce n'est pas ce qui l'attend. D'abord, en 52, le 17 novembre, c'est au tour de sa maman de rejoindre la maison du père. Cette maman qui l'a éveillée à la foi, qui lui a donné l'amour de Jésus, de la prière, et qui a peut-être, ou sans doute, joué un rôle dans l'origine de sa vocation. Comme elle est l'aînée de la famille, et vous avez vu une famille nombreuse, pendant un temps, elle va prendre soin de ses frères et sœurs les plus petits. Cette même année, 52, elle connaît aussi l'immense joie de voir son frère César, le deuxième de la tribu, être ordonné dans la congrégation des frères rédemptoristes. Encore un beau fruit de l'éducation que ses enfants ont reçue. Alors, la première mission que reçoit Aguchita de sa congrégation, c'est de s'occuper de la blanchisserie de la maison de Barrios Altos à Lima. Rien à voir avec son désir de partir en forêt. Elle a fait vœu d'obéissance et elle obéit donc de tout son cœur. Et là, à la blanchisserie, pour chacune des filles qui sont confiées à la communauté, Agustina est un modèle d'évangélisation par ses paroles, par son travail, par son attitude, toujours humble, serviable, dévouée. Et en plus des tâches qu'elle doit effectuer, elle prend des initiatives pour venir en aide aux plus malheureux. Elle organise par exemple des soupes populaires. Elle crée aussi des clubs de mamans pour leur apprendre à gagner leur vie grâce à leurs compétences en cuisine, en couture ou en tricot. Après quelques années passées à Barrios Altos, Aguchita est envoyée comme infirmière auprès des sœurs contemplatives de la communauté à Salamanca. Salamanca, province d'Arequipa, donc un peu plus à l'intérieur des terres. Et là, elle est vite reconnue comme une excellente infirmière, autant appréciée des sœurs que des patients. Elle se donne sans se lasser, elle s'en va même dans les périphéries soigner des enfants abandonnés. Elle est ouverte, à l'écoute de ceux ou celles qui en ont besoin, complètement livrée à l'amour, et même si cela dépasse le cadre de son travail, si on peut dire. C'est comme ça qu'un jour, une dame, complètement bouleversée, défaite, vient la voir parce que son conjoint la trompe et vraiment, elle ne sait plus quoi faire. Alors, quand Agustina la voit aussi perturbée, troublée, agitée même, avant de s'entretenir avec elle, elle lui propose de l'accompagner à la chapelle pour prier ensemble. Ensuite, elles parleront. Et c'est ce qu'elles font. Et après une longue discussion, au cours de laquelle la femme se rend compte, elle aussi, qu'elle a eu des torts vis-à-vis de son conjoint, Agustina, comme ordonnance, lui conseille de lire le psaume 22, le psaume du bon pasteur. Elle lui conseille de laisser le Seigneur lui parler, de s'accrocher à lui et à Marie avec courage, avec patience et de beaucoup prier. Et par ailleurs, comme elle a peur de rien, elle se propose aussi d'aller rencontrer son conjoint. Elle tient promesse, va parler au conjoint et l'histoire finit bien puisqu'il a cessé ses infidélités et il a même demandé en mariage sa compagne. Voilà un aspect de qui était Agustina, une porteuse de paix, une semeuse de réconciliation. Après cette mission à Salamanca, Agustina est de nouveau envoyée à Barrios Altos, mais cette fois pour se consacrer à la formation des novices. Là encore, elle laisse un beau témoignage d'amour et d'humilité au service de tous. D'anciennes novices se souviennent bien de sa simplicité qui les avait particulièrement touchées. Elles se souviennent aussi de son amour maternel pour chacune d'entre elles. C'était une mère, je cite, pour les jeunes novices. Mais c'était aussi une mère pour les prêtres, qui l'appelait volontiers notre mère. Il faut dire qu'elle leur vouait un amour tout particulier. Elle priait beaucoup pour eux, pour que le Seigneur leur donne la grâce d'être fidèles à leur belle vocation. Elle priait aussi pour leur sanctification. Et à ce propos, je voudrais vous partager le témoignage qu'a laissé un évêque qu'il avait côtoyé. Voilà les quelques mots qu'il dit. Elle nous donnait plus que nous ne pouvions demander. Notre sœur nous soutenait dans tous les détails de la vie du prêtre. Elle était très délicate, elle avait l'art de l'intuition. Avant même que nous ne demandions, elle sentait ce que nous désirions. J'avais été frappée par la délicatesse qu'elle avait de rester jusque tard, en attendant notre retour du travail dans la mission de Lima. Elle m'attendait avec un repas chaud. Voilà. Humilité. Délicatesse, disponibilité. En 1988, Agustina est âgée de 68 ans. Et enfin, elle va voir se réaliser son vœu de partir missionnaire dans cette forêt centrale du Pérou. La provinciale, en effet, l'envoie dans le village de la Florida, la province de Junín, où la congrégation est installée depuis le début des années 80. Et elle l'envoie pour renforcer l'équipe en place, une équipe qui a déjà amorcé un projet de promotion de la femme. Les sœurs ont aussi une pastorale pour les jeunes. Et puis dans la région, elles ont aussi des programmes de santé, d'alphabétisation, d'artisanat, de catéchèse. Mais elles comptent bien sur l'expérience d'Aguchita pour développer tout cela. Aguchita, pensez donc. Elle est toute heureuse, elle déborde d'actions de grâce, elle remercie Dieu qui, je la cite, dans sa délicatesse, c'est le terme qu'elle emploie, lui permet, avant de mourir, de voir réaliser ce pourquoi elle avait choisi d'être religieuse dans cette congrégation. Alors, certaines des religieuses, pourtant, essayent de la dissuader, trouvent qu'elle est trop âgée pour entreprendre pareil voyage, et puis pensent que la zone est dangereuse, la zone où elle devait se rendre est trop dangereuse. Donc, il vaudrait mieux qu'elle l'évite. Aguchita est déterminée et décide de partir quand même. Elle est consciente bien sûr des risques, mais comme elle le dit, je la cite, « J'appartiens à la congrégation du bon pasteur et le bon pasteur n'abandonne jamais ses brebis. » C'est pourtant vrai que la zone où se trouve le village de la Floride est une zone dangereuse, car fortement marquée par le terrorisme. Depuis les années 80, en effet, le Pérou, et plus particulièrement les zones rurales de l'intérieur, connaissent une grande violence. Les forces armées du gouvernement luttent contre les guérilleros du Sentier Lumineux. Le Sentier Lumineux, c'est le parti communiste local d'inspiration maoïste et qui cherche à instaurer un gouvernement socialiste et bien sûr l'implantation de la mission des religieuses est un grand obstacle, il faut l'éliminer. Alors une vraie guerre interne a éclaté avec toutes les horreurs que cela peut impliquer. Et c'est dans ce contexte qu'Aguchita arrive à la Floride pour se consacrer à l'éducation des jeunes et à la formation des femmes, ou du moins soutenir les femmes, surtout celles de la tribu des Achaninkas. C'est un des peuples indigènes du coin qui a vraiment le plus souffert des conflits internes. La première des choses que fait Aguchita en arrivant dans la région, eh bien, c'est de devenir pauvre parmi les pauvres. Elle donne tout, elle ne garde rien, elle veut vivre comme n'importe lequel des villageois, connaître toutes leurs difficultés, quelles qu'elles soient, et elle ne se plaint jamais. Elle a une confiance, il faut dire, une confiance absolue dans la Providence. Je la cite, « Je suis entre les mains de Dieu pour tout ce qu'il veut. » Et quand il manque de la nourriture face à ceux qui se plaignent, elle les encourage à prier et elle se limite à leur dire « Ne perdez pas courage. » Elle est convaincue que Dieu va les aider. Et c'est ce qui se passe. Une des religieuses en a été témoin et a raconté qu'un jour de grande disette, où les sœurs se demandaient bien ce qu'elles allaient pouvoir donner à manger à tous ceux qui n'avaient plus rien, eh bien ce jour-là, la Providence a fait qu'un camion rempli d'épis arrive à la Florida. Aguchita bénit tous les épis, les distribue à ceux qui étaient là, et miracle, il y en avait pour tout le monde. Un autre jour, une autre religieuse raconte qu'il n'y avait plus d'huile ni de fromage. Sœur Aguchita, qui avait encore une grande dévotion pour Saint Joseph, lui avait confié le matin ce souci dans sa prière et elle avait demandé son intercession et elle avait vraiment un besoin urgent. Et le soir, quelqu'un venait apporter bidon d'huile et caisse de fromage aux sœurs. Elle savait qu'il ne manquerait de rien et qu'en donnant, on reçoit davantage. Je la cite, elle avait l'habitude de dire « Ce que j'ai aujourd'hui, je le donnerai, et demain, nous en aurons plus. » À la Floride, Aguchita se donne sans compter, comme d'habitude, pour assurer une formation à ses habitants, en particulier, je vous l'ai dit, aux jeunes et aux femmes. Et elle met autant de zèle à leur enseigner le catéchisme, à leur enseigner les valeurs chrétiennes, qu'à leur apprendre à lire ou à leur apprendre à tirer parti concrètement de leurs talents respectifs pour pouvoir en vivre dignement et devenir autonome. Elle est ingénieuse, elle a de la patience, elle leur apprend à coudre, à faire du pain, elle donne des cours de cuisine, elle leur montre comment prendre soin des animaux et bien sûr du potager. Et elle le fait si bien que certains l'ont même surnommée « Sœur laitue » à cause d'une photo où, tout sourire, elle porte une énorme salade de son potager dans les bras. Elle est au service des Achaninkas, hein, la tribu indigène, mais elle accueille aussi tous ceux qui le veulent. Son amour est pour tous. Et elle l'écrit « Je n'ai jamais voulu aimer un groupe de personnes, j'aime tout le monde. Aimer le pauvre, c'est aimer la vie, c'est aimer Dieu, le Dieu de la vie. Aimer le pauvre, c'est aimer la vie, c'est aimer Dieu, le Dieu de la vie. » En 90, elle part à Lima. Elle a quelques problèmes ophtalmiques, je crois qu'elle doit se faire opérer de la cataracte. Mais comme l'attente pour avoir ce rendez-vous d'opération est un peu longue, elle ajourne l'opération et décide de rentrer à la Floride, pensant que son peuple a beaucoup plus besoin d'elle. Elle écrit à sa supérieure « J'apprécie votre invitation, j'aimerais beaucoup, mais cela perturberait le travail. Et d'ailleurs, je ne suis pas trop mal, ne se plaint jamais. » Et parlant au nom de sa communauté, elle rajoute « Nous sommes restés proches de Jésus pour qu'il s'occupe de cette affaire, de ses yeux bien sûr, pendant que je fais ce que je dois faire, c'est-à-dire revenir à la Floride. » Le 27 septembre 90, un groupe de guerrieros du Sentier Lumineux, des jeunes, armés, enfin d'abord âgés entre 15 et 18 ans, débarquent au village. Ils sont armés. Leur chef convoque tout le monde sur la place pour une assemblée. Il commence par un long discours à l'honneur du parti. Et à ce moment-là, Aguchita, qui faisait des bonbons avec quelques fillettes, sort parce qu'elle avait besoin de citrons. Une jeune fille du groupe des guerrieros la repère et lui ordonne de se joindre immédiatement aux autres. Comme Aguchita retourne d'abord éteindre le feu sous ses casseroles, la jeune fille interprète ça comme un refus d'obéissance. Elle en parle à son chef, qui ordonne à Aguchita de se placer à côté de 6 personnes qu'il va nommer. 6 personnes dévouées aux sœurs, 6 personnes qui vont être exécutées. Et sur cette liste figure aussi le nom d'une sœur, la sœur Luisa, sans doute la supérieure, mais elle est absente ce jour-là. Alors le chef, ni plus ni moins, dit à Aguchita qu'elle prendra sa place. Il proclame ensuite les motifs d'accusation pour lesquels ces 6 personnes doivent être fusillées. Je vous les lis et vous laisse vraiment les apprécier. Alors, ils vont être fusillés parce qu'ils sont coupables de manipuler les enfants au travers de l'éducation, de critiquer la violence et de diffuser des messages de paix et de justice. Ils vont mourir parce qu'ils sont coupables d'organiser la population, de distribuer de la nourriture, de travailler avec les pauvres et de soutenir les Achaninkas. L'exécution a lieu en quelques secondes. Agustina est la dernière. Elle intercède encore auprès de Dieu pour les martyrs et les bourreaux. Elle essaie de se mettre à genoux, mais ses jambes se dérobent. Sous elle, elle reçoit 5 balles et c'est une jeune fille de 17 ans qui a été chargée de la tuer. Après cela, les terroristes saccagent les magasins de la coopérative, le dispensaire, profèrent des menaces et dispersent la population. Ces funérailles auront lieu à la maison mère Notre-Dame de la Merced des Sœurs du Bon Pasteur. Elles vont être célébrées le 6 octobre. Plusieurs religieuses seront présentes et plusieurs prêtres aussi, dont le frère d'Agucita, le frère César, le rédemptoriste. Le 22 mai 2021, le pape François a autorisé cette congrégation à promulguer le décret qui reconnaît le martyr en haine de la foi, une étape dans le processus de béatification qui a débuté en 2017. Voilà, chers amis, je regarde l'heure, hein, chers amis de Radio Maria, un aperçu de qui était sœur Agucita, une sainte de la porte d'à côté, comme l'aurait écrit le pape François, une personne qui serait passée complètement inaperçue si elle n'avait pas été martyre, tant sa vie a été une vie menée, une vie toute simple, une vie dans l'humilité, une vie toute donnée à l'amour des plus petits.